Et oui, c'est mercredi et sur Radio Campus, il est 16h et quelques minutes, c'est l'heure de retrouver le magazine Lila Info. Un magazine donc dédié à l'Université Lila, mais aussi à ses partenaires. C'est le cas notamment aujourd'hui puisque nous allons accueillir, donc, dans le cadre d'une convention qui vient d'être signée entre la CCI Grand Lille, Madame Anne Chanu, qui est directrice de la formation enseignement de la CCI Grand Lille Nord de France. Et bien sûr, une autre personne, j'allais dire une personnalité, qui n'est autre que Francis Guilbert, qui est vice-président aux relations extérieures, aux entreprises et à la communication de Lille. Alors, tout d'abord, je vais accueillir Madame Chanu, donc. Donc la CCI Grand Lille, peut-être qu'on peut expliquer ce qu'est le Grand Lille dont il est question dans cette CCI spécifique.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors la CCI Grand Lille, c'est un établissement public qui a vocation à représenter les intérêts industriels et commerciaux des entreprises d'un territoire donné, en l'occurrence le Grand Lille, et la résultante de la fusion des CCI, donc des chambres de commerce de Saint-Omer, Armentières-Hazebrouck, Douai et Lille, en 2007. Donc ça s'est appelé la CCI Grand Lille, qui représente aujourd'hui, donc sur l'ensemble de ces territoires, les intérêts de 55 000 entreprises environ.
Donc cette concentration, on peut dire que c'est sa force de frappe?
Ah oui, absolument, oui. Oui, tout à fait. Donc on a mutualisé des services au service du développement de chacun de ces territoires et des territoires du Nord-Pas-de-Calais, mais de ces territoires en particulier, et au-delà des territoires, le développement économique des entreprises en apportant des services de conseil, d'accompagnement dans un certain nombre de thématiques qui sont l'appui RH, ressources humaines, l'innovation, le développement durable, et notamment notre projet d'établissement et notre projet de territoire qui est 3e révolution industrielle, l'accompagnement en matière de création, transmission d'entreprise, et je passe d'autres thématiques. Enfin, sur toutes ces problématiques de développement, l'entreprise peut trouver un service d'accompagnement au sein de la Chambre de commerce Grand Lille.
Si on la compare à d'autres CCI de France, est-ce que c'est une des plus importantes ou non ?
C'est un territoire, en tout cas, le Nord-Pas-de-Calais est un territoire économique qui est important. Donc forcément, les CCI qui sont représentées sur ce territoire sont par définition importantes puisqu'elles représentent les intérêts d'un nombre important d'entreprises. Nombre important d'entreprises et d'entreprises qui sont aussi très diversifiées dans leur taille et dans leur secteur économique.
Francis Guilbert, donc, bonjour.
Bonjour René.
Donc vous êtes vice-président en charge des relations extérieures, mais aussi des entreprises. Ces relations se sont nouées au fil du temps. Au départ, ce n'est pas forcément évident quand on est universitaire, mais ça devient, j'allais dire, une nécessité.
Alors il est évident qu'aujourd'hui, on ne pourrait absolument pas travailler dans une université sans travailler en relation avec les entreprises. Pourquoi ? Parce que nous avons pour mission, bien évidemment, de contribuer au développement de notre société, au sens global du terme, et par conséquent, de contribuer au développement de la compétitivité des entreprises. Et donc, dans le cadre de ce registre, de cette vocation ou même de cette mission, bien évidemment, depuis très longtemps, Lille 1 a eu des relations avec les entreprises. Mais ces relations étaient plutôt décousues en fonction d'opportunités, en fonction de personnes particulières. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques mois quand on s'était rencontrés, j'ai voulu mettre en place une politique qui repose sur les 3 C, concertation, cohérence et coordination. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rapprochés de la CCI Grand Lille pour mettre en place une convention cadre, en fait, qui va permettre de mieux travailler ensemble.
Donc, quand on signe une convention avec un partenaire qui n'est pas au départ, qui n'est pas complètement consolidé dans l'esprit des personnels, par exemple, à quoi on est vigilant et qu'est-ce qu'on signe en fait ? Comment on organise une convention qui prenne en compte les besoins et les désirs de chaque partenaire ?
Alors, il y a 3 grands axes dans la convention qui se décline en 5 éléments. Le premier axe, ce sont des collaborations en termes de présence institutionnelle. par exemple, des personnes de la CCI présentes dans des conseils de composantes ou dans des conseils de l'université. Par ailleurs, nous déclinons également toute une opération en termes de formation et insertion professionnelle. Et donc là, c'est bien sûr la vocation de pouvoir aider nos étudiants à rester dans le Nord-Pas-de-Calais, à grandir dans le Nord-Pas-de-Calais et à développer leurs activités dans le Nord-Pas-de-Calais. Puis ensuite, les aspects de recherche avec les transferts technologiques et bien évidemment l'entrepreneuriat qui vient s'ajouter à l'ensemble de ces propositions. Peut-être Anne veut-elle ajouter quelque chose sur ce registre ?
Non, je pense que c'était assez complet. À commencer par la connaissance réciproque, une meilleure connaissance réciproque des structures et de leurs hommes et femmes. Donc on commence lundi effectivement par une visite des collaborateurs de la CCI dans l'ensemble des thématiques que nous développons. Donc celles que je vous ai citées, hein, ressources humaines, stratégie, finances, développement durable, aménagement du territoire, gestion, management, qui sont autant de champs d'intervention pour les entreprises qui sont couvertes par des spécialistes, des experts en formation et en recherche par l'île 1. Donc la première opération, ça va être effectivement de faire se rencontrer les personnes, de créer un écosystème favorable. Et puis ensuite, on rendra l'appareil, on recevra à ceux qui veulent, qui le souhaitent, des personnels de l'île 1, une visite à la chambre de commerce pour expliquer nous ce sur quoi on travaille, comment on travaille avec les entreprises. Et puis après, en fonction du volontariat, définir des opérations, enfin des plans d'action de travail collaboratif.
C'est ce que nous appellerons une acculturation réciproque.
Voilà.
Donc la CCI représente des entreprises, mais la CCI a également un secteur formation, enseignement.
Oui.
Comment ce secteur entre en écho de ce qui se fait sur une université ? Est-ce qu'il y a des projets aussi par rapport à ça ?
Alors, l'outil de formation de la Chambre de commerce est un peu différent et complémentaire, je dirais, n'entre pas en concurrence avec les formations universitaires, dont on connaît la solidité économique et la vocation souvent à aller jusqu'à Bac plus 5 et avec le lien avec la recherche. Les formations Chambre de commerce sont des formations qui sont des formations professionnalisantes, généralement de courte durée, sur des niveaux qui vont de Bac à Bac plus 3. On peut travailler ensemble sur des axes qui sont la formation continue. On sait que l'île 1 est très très engagée dans la formation tout au long de la vie, depuis longtemps, est un des plus gros opérateurs universitaires français. Les chambres de commerce travaillent également sur ce secteur-là. Il faut reconnaître qu'en Nord-Pas-de-Calais, l'université est très forte. On peut trouver certainement des voies de collaboration dans ce domaine-là. On peut trouver des voies de réflexion sur l'apparition des nouveaux métiers. Hein, on entre dans une ère de mutation économique. On a parlé tout à l'heure de la troisième révolution industrielle. On peut avoir à travailler ensemble. Pas forcément en tant qu'opérateur de formation, puisqu'on est complémentaire, mais on peut peut-être chercher des voies encore plus de complémentarité, mais on peut travailler avec les services économiques et les formateurs ou labos de l'université sur l'anticipation des mutations économiques des entreprises, et notamment l'apparition de nouveaux métiers.
Alors, justement, par rapport à ça, quand vous organisez des formations au travers de vos structures de formation, le prix pour la personne qui se forme est assez différent de ce que l'université demande aux gens qu'elle forme.
Oui.
Est-ce que, justement, il n'y a pas, quelque part, un écart qui peut éventuellement poser des questions, sinon des problèmes ?
Les problèmes sont des problèmes que nous assumons. Je pense que les formations universitaires gratuites ou très peu chères, c'est très important pour un service public de l'enseignement au niveau national, qui est quand même lié à des financements de l'État qui ne vont pas du tout vers les chambres de commerce. Donc par définition, si nous n'avons pas de dotation par étudiant, les familles contribuent, les familles ou les entreprises d'ailleurs, puisque nous formons aussi beaucoup par alternance. Donc effectivement, le coût qui n'est pas couvert par une dotation de l'État, qui n'existe pas pour la formation dans les chambres de commerce, puisque nous n'avons pas le droit de mettre de ressources fiscales sur la formation, forcément, c'est un coût de revient. On essaie de gérer au mieux pour réduire ce coût de revient pour les familles ou pour les entreprises.
Il faut savoir qu'en ce qui concerne la formation, en fait, nous ne sommes pas si différents dans la mesure où tout ce qui est formation continue, tout ce qui est formation alternance, est financé au niveau de l'université, en partie par des organismes tels que le Conseil régional, par exemple, mais aussi par les entreprises. L'alternance est financée par les entreprises, via un organisme qui est Formasup, tout ce qui est apprentissage dans le supérieur. Seule la formation initiale est facturée, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une facture, mais c'est ce que ressentent les étudiants, 200 euros par an pour les droits d'inscription. D'ailleurs, s'ils sont parfois en discussion aujourd'hui sur le principe qu'on devrait être dans une réalité plus exacte des droits d'inscription, mais avec bien évidemment un soutien financier pour tous ceux qui sont dans le besoin, je pense en particulier aux étudiants boursiers. Donc sur ce type de registre, en alternance ou en formation continue, nous sommes quasiment sur les mêmes modes de fonctionnement. Par contre, il est vrai que l'État prend en charge la formation initiale au niveau des étudiants, et c'est bien le rôle du service public.
Alors justement, certaines entreprises contribuent au développement, par des financements, au développement des universités, mais en général de la formation également. Qu'en est-il de l'Université Lille par rapport à justement l'aide qu'apportent des entreprises à l'université? Et est-ce que le partenariat avec la CCI peut amener à un développement de l'aide des entreprises de la région aux services publics plutôt qu'à des services privés?
Alors, c'est aussi une question de profil utilisateur. Par exemple, dans les projets que l'on souhaite développer fortement, il y a tout ce qui est question des doctorants ou les docteurs. Les personnes qui préparent une thèse, pour certains d'entre eux, aujourd'hui, au bout de 3 ans, 4 ans, ne sont pas suffisamment acculturés à l'entreprise. Ils sont excellents en recherche et on en perd quelques-uns parce qu'ils n'ont pas pris cette habitude d'aller travailler en entreprise avec des contraintes d'entreprise. Donc là, c'est une dimension que l'on pourra effectivement mettre en place et qui permettra à chacun d'y retrouver son compte. Puisqu'il n'est pas question que l'entreprise, entre guillemets, paye à fond perdu, c'est une opération qui doit être gagnant-gagnant. Et donc, pour le doctorant, ça sera un débouché supplémentaire. Il peut bien sûr aussi aller travailler en recherche ensuite. Et pour l'entreprise, elle peut investir une mise de fonds et ensuite retrouver derrière un cadre compétent, non seulement dans le domaine scientifique, mais également sur la capacité managériale.
Donc, on a compris un peu les bases de ce partenariat. Donc, une université a une dimension recherche, une dimension à s'inscrire dans des problématiques, on va dire, sociétales, élargies, non pas seulement régionales, d'accord ? Une chambre de commerce et d'industrie, une CCI, elle a plutôt des problématiques de proximité avec des entreprises locales. Comment on peut, justement, accorder l'un et l'autre dans ces chambres respectifs?
Notre cible sont effectivement, notre champ d'intervention sont les entreprises locales, mais une entreprise locale, quelle que soit sa taille, pour se développer, elle a besoin d'exporter et d'aller vers un développement international, transfrontalier ou autre. Donc les objectifs peuvent être les mêmes dans ce domaine-là.
Et donc une université comme Lille 1 qui accueille énormément d'étudiants étrangers, de gens qui ont un cursus, je veux dire, de compétences qui dépassent les compétences nationales, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse en tant que CCI Grand Lille?
Ça nous intéresse dans la mesure où ils viennent étudier dans un établissement important qui est Lille 1. À travers ça, ils viennent connaître la région du Nord-Pas-de-Calais, qu'ils se forment pour y rester un temps. Le temps de leur doctorat, par exemple, ou de leur première expérience professionnelle, ou qu'ils aient vocation après à en repartir, ils connaîtront notre terreau d'entreprise, ils connaîtront notre culture économique et autres, notre culture tout simplement au niveau local et au niveau régional. Et je pense qu'en termes de rayonnement de la métropole lilloise et de la région, ça ne peut être qu'un plus, bien entendu.
Donc ces étudiants étrangers qui ont des compétences et qui peuvent éventuellement retourner dans leur pays pour appliquer, mais aussi pour faire rayonner les relations qu'ils ont pu éventuellement établir ici, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour les rencontrer, pour créer une petite structure qui permette de comprendre leur potentialité et jusqu'où vous pourriez développer des projets au retour?
Alors pour l'instant, on ne l'a pas formalisé dans le cadre d'un projet ou d'une structure, mais c'est effectivement un champ sur lequel on peut être amené à travailler, comme celui des docteurs. Oui, bien entendu, on peut travailler là-dessus.
Il faut bien voir que chaque étudiant étranger est susceptible ensuite de constituer un point d'ancrage dans son pays. Et un point d'ancrage, aujourd'hui, nous travaillons quasiment uniquement en réseau. On ne peut pas travailler en solitaire. Or, pensons à une PME qui, sur la région, aura fait visiter son entreprise à une vingtaine d'étudiants, aura fait des projets avec ses étudiants, offert quelques stages éventuellement. Lorsqu'elle aura besoin de se développer, elle aura des contacts qui lui permettront, rapidement d'être présent dans 3, 4, 5 pays, non pas nécessairement au travers d'une action commerciale ou autre des étudiants qui sont passés, mais par le réseau qu'ils permettront de mettre en relais avec les aspects commerciaux, financiers, les relais pour les banques, je pense, par exemple, quand on crée une succursale ou des choses de ce genre.
C'est vrai que sur la région de Lille, il y a à peu près 1500 étudiants chinois. Xi Jinping est venu il n'y a pas longtemps en France et en Belgique aussi. Et il a déclaré que pour les grosses, hyper grosses entreprises, ça paraissait naturel de travailler avec la Chine. Par contre, le secteur PME-PMI méritait d'être environné pour pouvoir conquérir la Chine. Et donc, cet encadrement, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en charge, prendre en compte ?
Nous, directement, ou nos collègues de CCI International, effectivement, peuvent tout à fait être intéressés, organisent régulièrement des conventions ou des voyages d'études pour des PME-PMI. Le fait d'avoir effectivement des étudiants pendant un certain temps sur la métropole, à travers les rencontres qu'évoquait Francis, ce sont autant d'occasions, effectivement, de créer du lien, de créer du réseau et de l'accompagnement d'entreprises sur ces marchés-là, bien entendu.
Je pensais également aux besoins qui se dégageaient au travers de ces étudiants qui viennent de l'étranger et qui peuvent, en venant dans nos universités, se former pour avoir des compétences pour régler des problèmes locaux, mais de chez eux. Justement, ces gens, est-ce qu'ils sont capables de vous exprimer des besoins et éventuellement de demander à votre tissu économique, industriel, de pouvoir avoir les outils pour intervenir chez eux par la suite, dans le cadre de collaboration, de coopération décentralisée.
Ça va dans les deux sens, bien entendu, oui, tout à fait, oui.
Oui, quelqu'un qui vient d'un pays est susceptible d'arriver aussi avec son portefeuille relationnel. Il n'est pas rare qu'un étudiant nous dise « Ah ben, j'ai eu des contacts avec telle entreprise là-bas, dans mon pays, j'ai fait tel stage. » Et donc, par là, nous introduisons de nouveaux contacts et un contact en amène un autre. Et puis, nous avons, nous, des relations donc, avec ces entreprises et nous connaissons notre tissu économique régional. À partir de ce type de contact, peut nous venir l'idée de dire « Tiens, je vais téléphoner à telle entreprise pour lui suggérer éventuellement qu'elle prenne contact avec un tel dans telle société. » Et puis après, eh bien, les choses se font naturellement. Hein, mais au moins, nous sommes dans l'entrée de la mise en relation.
Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie donc de Anne Chanu, qui est directrice formation enseignement de la CCI Grand Lille Nord de France, et Francis Gilbert, qui est donc vice-président relations extérieures et aux entreprises et la communication de l'Université Lille. On vit une période un peu compliquée pour des jeunes qui cherchent du travail. Pour les étudiants qui sont à un bon niveau d'études, on va dire licence master plutôt, c'est peut-être moins compliqué, moins difficile que pour certains qui ont des diplômes beaucoup inférieurs. Est-ce que dans ce cadre-là aussi, ces gens qui sont formés sont en attente des entreprises? Est-ce que, justement, il y a un réel besoin actuellement de ressourcer, de remplacer des générations peut-être de gens qui sont salariés et qui vont partir en retraite dans les entreprises et auxquels ces gens formés en université sont capables de répondre? C'est-à-dire, en termes de besoins, est-ce que vous ressentez dans votre tissu économique, dans votre tissu industriel, un besoin de ressourcer les gens qui travaillent, donc de faire appel à des gens qualifiés qui viennent de l'université?
Ça dépend des fonctions, mais il y a effectivement des fonctions qui sont dites en tension, comme les fonctions commerciales, ou des fonctions qui ont intégré effectivement des personnes qui vont effectivement partir en retraite. Bien entendu, une université comme Lille 1 doit être associée dans nos structures à la préparation des compétences de demain pour assurer la relève. Ça passe par des stages, une meilleure connaissance réciproque entre l'université et les étudiants, l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc je pense qu'ici, il y a déjà des outils avec Passepro ou le BAIP qui sont extrêmement structurés. Mais si on nous le demande, on pourra intervenir pour faire intervenir des chefs d'entreprise, des cabinets de consultants en plus de ceux qui interviennent intervient déjà spontanément auprès de ces services-là. Donc accompagner la mise en relation, accompagner bien entendu les entreprises dans la réflexion sur leur plan de recrutement, sur la connaissance des champs d'intervention. Une entreprise, une PME, ne sait pas forcément ce qui se fait avec à Lille 1. C'est tout l'objet de ce que Francis appelait tout à l'heure l'acculturation. Faire connaître à nos conseillers l'ensemble des champs d'intervention de Lille 1 et donc des compétences produites ici. Hein, si vous excusez le terme un petit peu marketing, on produit quand même de la compétence. Il faut qu'on puisse expliquer, nous, à nos entreprises, sur tel besoin économique, vous pouvez trouver de la compétence dans telle composante ou dans telle structure de l'île 1. Et nous, conseillers en développement d'entreprise, on va vous appuyer sur votre réflexion, sur la définition de votre profil, sur la du profil nécessaire, sur la mise en relation avec le chargé de formation ou le responsable de formation qui va diffuser l'offre auprès de ses étudiants ou auprès de ses réseaux d'anciens. Voilà, oui, effectivement, l'accompagnement des compétences de demain, il faut qu'on travaille en commun ensemble. Je pense qu'il y a déjà des contacts et des opérations qui sont menées entre les entreprises et l'île 1, mais si on peut favoriser le renforcement de cet aspect-là, oui, bien entendu.
Il faut bien voir que l'île 1 est en pointe sur tout ce qui est recherche, bien évidemment, mais en même temps, nous avons pour mission de diffuser ces éléments de recherche et ces connaissances au travers de nos formations. Or, si les conseillers en développement de la CCI viennent nous voir en nous disant « Voilà, il y a tel secteur aujourd'hui, quelles sont les évolutions ?» Eh bien, nous sommes capables de construire avec eux sans doute une meilleure adéquation et de nos formations et donc de la réponse aux besoins du tissu local. Je prends un exemple très simple. La mécanique, c'est une chose. L'électronique, c'est autre chose. La mécatronique, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et il est évident que si une entreprise qui est dans le domaine de la mécanique n'évolue pas vers la mécatronique, elle est morte à l'horizon de 5 ans.
Au niveau de l'identification des besoins, la CCI Grand Lille enquête, questionne ses, on va dire, partenaires industriels ou entreprises pour savoir quels sont les besoins actuellement ou en permanence.
Très régulièrement, on a un observatoire effectivement régional de l'emploi sur le territoire, avec des enquêtes de conjoncture très régulièrement qui font le point sur les besoins des entreprises. Alors, sur les besoins en matière d'exportation, en matière d'innovation, en matière de recrutement, en matière de recrutement par apprentissage, les métiers qui sont en tension. On croise effectivement avec des statistiques venant d'autre part. Pôle emploi a aussi des observatoires qui sont très bien faits, l'ONICEP, le CEREC, etc. Donc on a un service d'études qui mène ses propres entreprises auprès de notre tissu économique, qui en tire des conclusions, qui les croise et qui exprime des grandes orientations qui pourraient être tout à fait profitables aux établissements et aux composantes de l'île 1.
En pourcentage, les besoins, c'est plus en enseignement supérieur ou plus en formation initiale plutôt professionnelle ?
Ah, ça dépend à quel type d'entreprise on s'adresse, mais je pense que les besoins en compétences sont sur l'ensemble des secteurs. Mmh. On a des besoins forts sur les domaines industriels, des métiers pour lesquels on ne trouve plus de compétences formées. Voilà. Et puis on a des besoins dans tous les domaines, et à tous les niveaux de formation.
Allez, vous allez nous le dire, un scoop, c'est quoi les métiers d'avenir ? C'est quoi
Il n'y aura pas de scoop parce que les métiers d'avenir, ils sont en perpétuelle réflexion et recherche. Mmh. Il y a des choses qui émergent aujourd'hui autour de l'économie verte, par exemple. Tout le monde est un peu en recherche et en veille sur ce domaine-là. Donc il n'y aura pas de scoop aujourd'hui sur la question. Si j'en avais un, il serait déjà dans la presse ou chez les spécialistes de la veille économique ou de la veille emploi. Mais c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on puissent travailler ensemble. Je pense qu'un des sujets, ça va être tout ce qui a trait à la mutation économique dans le cadre de cette troisième révolution industrielle et notamment tout ce qui a trait à l'économie verte.
Est-ce que vous jugez que la région Nord-Pas-de-Calais, qui a été quand même une région assez touchée par l'industrialisation à certains moments, notamment par les effets de l'industrialisation, les pollutions, etc., a profité finalement de cette expérience négative pour aller de l'avant vers des recherches de solutions, ou est-ce qu'elle a eu un moment d'oubli un peu de ces problématiques et qu'elle redécouvre maintenant que le besoin se fait sentir au niveau international d'ailleurs?
Enfin, je pense que là, on est dans une région qui a beaucoup souffert et qui a démontré à toutes les étapes de ses difficultés sa capacité à rebondir et à avancer. Donc là, on est dans une nouvelle étape avec un vrai projet de territoire qui dépasse aux frontières et que nous, on met sous ce terme de troisième révolution industrielle. Je pense que la région a toujours démontré sa capacité de résilience et le fait d'avancer et de dépasser ses difficultés.
Ce projet de révolution industrielle, ça redonne du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on étudie ?
Alors, ça redonne du sens, ça redonne aussi des objectifs. Peut-être qu'en tout cas, ça permet de concrétiser sur des choses que l'on ressentait au fond de soi-même et au fond des groupes de travail, des think tanks. Mais il faut bien voir que la région sera pilote là-dessus. Donc, en quelque sorte, on est attendu au tournant, comme l'on dit. Et on ne peut pas manquer cette évolution, parce qu'effectivement, la révolution industrielle, nous n'avons pas été assez présents. Nous avons perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Nous avions des très grandes entreprises. Tout le volant textile dans notre région, c'était une catastrophe épouvantable de perdre cela. Et donc, il faut que sur cette dimension-là, on soit effectivement présent et on se doit de réussir.
Voilà. Donc, les enjeux, on les a bien compris. Les étapes, les échéances ?
Tout d'abord, eh bien, la signature effective de cette convention lundi, dans quelques jours. Puis ensuite, les choix de chantiers prioritaires, mais parmi ceux-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension des docteurs est importante. Et ensuite, en fonction de l'acculturation qui se fera, le plan de progression, mais nous avons bien sûr Anne et moi des choses en tête, mais nous allons les garder pour les présenter lundi, si vous le permettez.
Merci Francis Gisbert, merci Anne Chanu.
Merci de votre écoute.
René.